Chapitre 13. Saint Hérem se jeta dans les bras de son ami et lui dit « Louis, mon pauvre Louis, je sais tout. Hier, je t'avais promis de venir m'informer de ce qui t'intéressait. Tout à l'heure, lorsque je suis monté ici, ton portier m'a appris la mort de ton père. Ah, quel cruel et subit événement !»« Tiens, Florestan, reprit Louis d'une voix pleine de larmes, en remettant à Saint Hérem le testament du vieillard, lis. Et tu comprendras si mes regrets doivent être amers. » Lorsque Saint Hérem eut achevé la lecture du testament, Louis reprit. « Eh bien, dis maintenant, crois-tu que quelqu'un puisse blâmer mon père de son avarice? Sa seule pensée n'a-t-elle pas toujours été de m'enrichir, de me mettre à même de m'enrichir davantage encore, ou de faire un généreux usage des grands biens qu'il me laisse? C'était pour moi qu'il thésaurisait en s'imposant les plus rudes privations. » Rien ne m'étonne de la part d'un avare, répondit sincèrement Florestan. Les avares sont capables de grandes choses, et je dis cela pour tous ceux qui sont en proie à cette passion puissante et féconde. Florestan, n'exagérons rien. Cela te semble un paradoxe? Rien n'est pourtant plus vrai. On a toujours été envers les avares d'une injustice stupide, ajouta Saint Hérem avec un enthousiasme croissant. Les avares? Mais l'on devrait leur élever des hôtels, les avares. Mais c'est prodigieux, le génie qu'ils emploient à inventer des économies inconcevables, impossibles. C'est quelque chose de merveilleux que de les voir, grâce à leur opiniâtre et savante parcimonie sur toute chose, faire de l'or avec des épargnes en apparence insaisissables. Bout d'allumettes conservées, épingles ramassées, centimes portant intérêt, liards placés à la grosse aventure. Et l'on ose nier les alchimistes, les inventeurs de la pierre philosophale. Mais l'avare la trouve, lui, la pierre philosophale. Encore une fois, ne fait-il pas de l'or avec ce qui n'est rien pour les autres? Sous ce rapport, tu as raison, Florestan. Sous ce rapport et sous tous les rapports, car enfin... Mais tiens, Louis, suis bien ma comparaison. Elle est juste et digne de mes beaux jours de rhétorique. Voici un terrain sec, stérile. On y creuse un puits, qu'arrive-t-il? Les moindres sources, les plus petits filets d'eau souterraine, les plus imperceptibles pleurs de la terre, évaporées ou perdues jusqu'alors sans profit pour personne, se concentrent goutte à goutte au fond de ce puits. Peu à peu l'eau monte, grandit, le réservoir s'emplit, et vient ensuite une main bienfaitrice qui épanche largement au dehors cette onde salutaire, verdure et fleurs naissent comme par enchantement sur ce sol naguère si triste, si nu. « Eh bien, dit Louis, ma comparaison est-elle juste? Le trésor caché de l'avare, n'est-ce pas ce puits profond, où, grâce à son opiniâtre et courageuse épargne, ses richesses s'amassent goutte à goutte, sou à sou, et sans l'avare, n'eussent-elles pas été dissipées presque sans profit pour personne, ces milliers de gouttelettes de cuivre, converties en argent, puis en or, et qui, accumulées, forment un réservoir, ne peuvent s'épandre à flot le luxe, la magnificence, les prodigalités de toutes sortes? « En vérité, Florestan, » dit Louis, distrait de sa douleur par la verve de son ami, « si mon jugement sur la conduite de mon pauvre père avait pu être influencé par ma tendresse filiale, les raisons que tu me donnes au point de vue économique me prouveraient du moins que je ne me suis pas abusé. Je le crois bien, tu es dans le vrai, car si au point de vue philosophique nous envisageons l'avare, il est par Dieu bien plus admirable encore. Ceci, mon ami, me paraît moins juste. Comment? Moins juste? Voyons, réponds, admets-tu que tôt ou tard, les richesses, si laborieusement amassées par l'avare, s'épanchent presque toujours en magnificence de toutes sortes, car le proverbe a dit « à père avare, fils prodigue ». Soit, j'admets la prodigalité comme dispensatrice presque ordinaire de ces trésors si longtemps enfouis, mais où vois-tu de la philanthropie là-dedans? Où j'en vois? Mais partout, mais dans tout. Est-ce que les conséquences du luxe, de la magnificence, n'amènent pas le bien-être et l'aisance de 100 familles qui tissent la soie, le velours, la dentelle, qui cisèlent l'or et l'argent, qui montent les pierres précieuses, bâtissent des palais, sculptent l'ébène des meubles, vernissent les voitures, élèvent les chevaux de race, cultivent les fleurs rares? Est-ce que peintres, architectes, cantatrices, musiciens, danseuses, tout ce qui est enfin métier, art, plaisir, enchantement, poésie, n'a pas une large part à la pluie d'or qui fait éclore ces merveilles? Et cette pluie d'or, d'où sort-elle, sinon de ce magique réservoir si lentement mais si opiniâtrement rempli par l'avare? Ainsi donc, sans l'avare, pas de réservoir, pas de pluie d'or, et aucune des merveilles que cette splendide rosée peut seule féconder. Maintenant veux-tu que nous abordions l'avare au point de vue catholique ?
L'avare au point de vue catholique ?
Certes, c'est là surtout qu'il est superbe. Je te l'avoue, cette thèse me semble difficile à soutenir.
Elle est des plus simples, au contraire.
Voyons. Dis-moi, une des plus grandes vertus catholiques, c'est l'abnégation, n'est-ce pas ?
Sans doute.
C'est le renoncement absolu aux joies du monde, une vie de privation atroce, une vie d'anachorète dans la Thébaïde.
Certes.
N'est-il pas aussi d'un excellent procédé pour le salut des catholiques d'être vilipendés, bafoués, honnis, conspués, abhorrés pendant leur vie, et de supporter ces outrages avec une imperturbable sérénité ?
C'est encore vrai.
Eh bien, mon cher Louis, je te défie de me citer un ordre monastique dont les membres pratiquent aussi absolument, aussi sincèrement que la plupart des avares le renoncement au plaisir d'ici-bas. Et bien plus, presque tous les moines ne font-ils pas vœu de pauvreté comme un aveugle de naissance ferait vœu de n'y voir point clair ? Les capucins renoncent aux danseuses, aux vins de champagne, aux chevaux de course, aux hôtels, à la chasse, aux lansquenets et à l'opéra.
Je le crois bien, pardieu, qu'ils y renoncent.
La plupart ont de bonnes raisons pour cela, mais l'avare, quelle différence ! Voilà un renoncement vraiment héroïque. Avoir sous clé, dans son coffre, toutes les jouissances, toutes les ivresses, tous les enchantements de l'âme, de l'esprit, des sens, et posséder l'incroyable courage de se refuser tant de délices, ah, crois-moi, Louis, là est la force, là est le triomphe d'une volonté énergique.
C'est qu'aussi l'avarice étouffe presque toujours les autres passions, et le renoncement coûte moins à l'avare qu'à tout autre.
En se privant, il satisfait sa passion dominante.
Justement.
Et n'est-ce donc pas une puissante, une grande passion que celle-là qui aboutit à de tels renoncements ? Et ce n'est rien encore. Comme désintéressement, l'avare est sublime.
Le désintéressement de l'avarice, Florestan.
Il est sublime, le désintéressement, te dis-je. L'avare ne s'abuse pas, lui. Il est pendant sa vie exécré, honni, il le sait bien.
Il sait bien aussi qu'à peine mort, ses héritiers danseront presque toujours sur sa tombe les plus ébouriffantes farandoles, en buvant à l'heureuse fin du fesse-mathieu, du gripsou, de l'arpagon.
Oui, l'avare sait tout cela, la pauvre et bonne âme.
Cependant, citez-moi un seul, qui dans une telle prévision, rancuneux par-delà le trépas, est tenté de faire disparaître son trésor avec lui.
Chose facile, 2 millions à billets de banque se brûlent en 5 minutes.
Mais non, ces 12 avares, pleins de mansuétude et de pardon, pratiquant l'oubli des injures, laissent leur trésor à leurs héritiers.
Tiens, Louis, sais-tu quelque chose de comparable au martyr d'un avare ?
Et il dure non pas une heure, mais toute sa vie,
car l'avare se dit incessamment « Ce trésor amassé avec tant de peine, au prix de privations inouïes, ce n'est pas pour moi que je l'aurais amassé, non. »
Non, viendra l'heure fatale où cet or, auquel je tiens comme à mon sang, sera dissipé en prodigalités fastueuses, en folles orgies, au milieu desquelles mon nom sera bafoué et insulté, et cela, par mon fils, peut-être. Et pourtant, ce trésor, je ne le fais pas disparaître avec moi pour tromper et punir tant d'insolentes cupidités.
Ah, crois-moi, Louis, c'est une forte, c'est une grande passion que l'avarice, et rien de ce qui est grand, de ce qui est fort n'est inutile. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Je crois que dans son intelligence, dans sa bonté infinie, Dieu n'a pas créé de passion sans but, c'est-à-dire de force sans emploi. S'il a doué les avares d'une incroyable concentration de volonté, c'est qu'ils ont à accomplir quelque mystérieuse destinée. Tant pis pour le vulgaire assez peu éclairé, pour ignorer la domestication de cette passion, comme le dirait le savant docteur Gasterini, le grand apôtre de la gourmandise, tant pis pour l'humanité si elle laisse l'avarice à l'état inculte et sauvage. Greffez le poirier des bois, il vous donne, au lieu d'un fruit amer, un fruit savoureux. Encore une fois, toute force a et doit avoir son expansion, toute passion bien dirigée son excellent essor. Suppose, par exemple, un avare, ministre des finances d'un État, et apportant dans la gestion, dans l'économie des deniers publics, cette inflexibilité qui caractérise l'avarice. Il enfantera des prodiges. À l'encontre du surintendant Fouquet, dit Saint-Simon, M. Colbert, malgré ses grands biens, était en son particulier étrangement ménagé. Or, Fouquet avait ruiné les finances de la France, et jamais
elles ne furent plus florissantes que sous Colbert. Sans ce ministre avare, les prodigalités de Louis XIV devenaient impossibles, et tant de merveilles, de magnificence et d'art et de poésie restaient dans le néant. Tu le vois donc bien, tout se relie, tout s'enchaîne, chaque cause a son effet. Louis XIV prodigue est la conséquence de Colbert avare. Florestan, reprit tristement Louis, pendant que ce grand roi, dont j'ai toujours abhorré la mémoire, ruinait le pays par ses insolentes prodigalités, le peuple, écrasé d'impôts, vivait dans une atroce servitude pour subvenir aux fastes effrontées de Louis XIV, de ses maîtresses et de ses bâtards. De nos jours, que de misère encore. Ah, si comme moi tu connaissais la vie de Mariette, par exemple, pauvre enfant, si vaillante au travail pourtant. Le spectacle d'un si affreux dénûment te causerait comme moi un sentiment amer. C'est vrai. Mais que veux-tu, je suis philanthrope et économiste à ma manière. Je prends le temps comme il est, et faute de pouvoir faire mieux, je dépense jusqu'à mon dernier sou, morbleu. Ce n'est pas moi que l'on accusera de faire chômer les industries de luxe. Mon ami, je n'accuse pas ton généreux cœur. Dans l'état des choses, celui qui dépense largement, follement même ses richesses, donne du moins du travail, et le travail c'est le pain, et pourtant tu vantes l'avarice. Eh, morbleu, mon ami, raison de plus. Comment ? Qui appréciera, qui glorifiera l'excellence de l'armurier, sinon le guerrier ? L'excellence du cheval, sinon le cavalier ? L'excellence du luthier, sinon l'instrumentiste ? Paganini, pape, eut canonisé Stradivarius, l'auteur de ces violons merveilleux, dont le grand artiste jouait si admirablement. Or, moi qui ai la prétention de jouer admirablement du million, je canoniserais mon oncle, cet héroïque martyr de l'avarice. Si la justice distributive voulait que les merveilleux instruments de prodigalité qu'il fabrique, en entassant sou sur sou, tombassent un jour entre mes mains. Ah, mon Dieu ! Qu'as-tu, Louis ? Tu ignores donc ? Quoi ? Mais oui, car ainsi que me l'avait écrit mon pauvre père, la résolution de M. Rameau de venir à Paris avait été subite. Mon oncle est à Paris. Ah, Florestan ! Il est des événements étranges. De quel air me dis-tu cela ? Que signifie ? Et c'est moi ? Dans un pareil moment, et après l'entretien que nous venons d'avoir, c'est moi qui dois t'apprendre. Ah, encore une fois, cela est étrange. Que dois-tu m'apprendre? Qu'y a-t-il d'étrange? Je t'ai parlé des projets de mon pauvre père au sujet d'un mariage entre moi et ta cousine. Oui, ensuite? Ton oncle, ignorant mon refus, et voulant hâter le moment de cette union, qu'il désirait aussi vivement que mon père, est parti hier de Dreux avec sa fille, et tous deux sont arrivés ce matin. À Paris, bien. Mais pourquoi cet embarras, cette hésitation de ta part, mon cher Louis ? Ton oncle et sa fille ne sont pas venus directement à Paris. Ils se sont arrêtés à Versailles, Florestan, à Versailles, où mon pauvre père est allé. À cette pensée qui ravivait ses douleurs, Louis ne put achever, ses sanglots étouffèrent sa voix. Saint-Hérem, touché de l'émotion de son ami, lui dit « Allons, mon ami, du courage, je comprends ton profond chagrin. Le testament de ton père doit augmenter tes regrets. » Florestan, dit le jeune homme après un assez long silence, en essuyant ses larmes, si j'hésitais tout à l'heure à m'expliquer, c'est que, dans les idées de tristesse et de deuil où je suis, je crains d'être péniblement affecté en voyant la satisfaction, excusable peut-être, que va sans doute te causer la nouvelle que j'ai à te donner. Mon Dieu, Louis, explique-toi clairement. Je te l'ai dit, mon père est allé à Versailles rejoindre ton oncle et ta cousine. Et puis, ton oncle et sa fille, ainsi que cela avait été convenu avec mon père, auront sans nul doute pris le chemin de fer comme lui, monté dans le même wagon que lui et... Et aussi, s'écria Saint-Hérem en mettant ses deux mains sur son visage, les malheureux, oh, ce serait horrible. Le cri d'effroi, l'accent de pitié de Saint-Hérem, furent si spontanés, si sincères, que Louis se sentit touché de cette épreuve de la bonté de cœur de son ami, dont la première impression avait témoigné d'un sentiment de généreuse commisération et non d'une joie cupide et cynique.